Vous écoutez RFI, les 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Guillaume Ouattara.
L'heure de retrouver Christophe Pagé pour le grand journal du soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de cette édition internationale, les réactions politiques et celles des bourses aussi face aux droits de douane dégainés hier soir par Donald Trump.
Oui, les bourses Davis en Europe et ailleurs, on verra ça avec Altine Lazage. Avant, nous serons à l'Elysée, où Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les représentants des grandes filières exportatrices et du patronat pour organiser la riposte française et européenne.
La Hongrie quitte la Cour pénale internationale.
Alors que Viktor Orban accueille dans son pays le Premier ministre israélien visé par un mandat d'arrêt de la CPI. À suivre la correspondance de Florence Labrouillère. Et puis la Corée du Sud se prépare au procès en destitution demain du président Yoon Suk-yeol qui avait tenté d'instaurer la loi martiale dans son pays. Des milliers d'agents des forces de l'ordre ont été déployés.
À suivre dans RFI Soir, 18h30, TU Afrique Soir, la première édition, 19h10, le décryptage, consacré ce soir à la Birmanie, quasi une semaine après le séisme. Et puis le grand reportage nous emmène au cœur de la résistance taïwanaise face à l'emprise grandissante de Pékin. L'heure est au dialogue, c'est en tout cas ce à quoi appellent les principaux partenaires des États-Unis.
Mais au lendemain de l'offensive tous azimuts de Donald Trump sur les droits de douane, plus 20% pour l'Europe, plus 24% pour le Japon, une Chine qui hérite d'un 34% qui s'ajoute aux 20% déjà en place. Résultat, les bourses dégringolent et tout le monde craint des conséquences lourdes pour l'économie mondiale, d'où ces appels au dialogue. Pékin dit maintenir la communication, le commissaire européen au commerce va parler avec ses homologues américains demain. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit qu'il n'est certes pas trop tard pour négocier, mais que l'Union européenne est prête à réagir. En France, c'est le même son de cloche. Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Le président français Emmanuel Macron recevait cet après-midi à l'Élysée les représentants des grandes filières exportatrices et du patronat. Objectif, mettre les troupes en ordre pour réaliser son plan de bataille.
Oui, on a vu Emmanuel Macron, le regard dur, ne mâchant pas ses mots, rehausser les droits de douane. Une décision brutale et infondée.
L'objectif, c'est qu'on apporte une réponse, mais avec un terme à tout cela, c'est que par la négociation, on arrive, évidemment, à démonter les tarifs qui ont été annoncés ces dernières semaines, et en particulier ces dernières heures, et que nous, on démonte les nôtres. Nous sommes, croyons, dans la vertu du commerce. Mais simplement, on n'est pas naïf, donc on va se protéger.
La carte sur table, Emmanuel Macron dévoile donc, écoutez, son plan d'action.
La riposte européenne se fera en deux étapes, parce que riposte, il y aura, de manière claire. La première riposte aura lieu mi-avril. Elle portera sur les taxes déjà décidées, en particulier sur acier et aluminium. Deuxième réponse, plus massive, celle aux tarifs annoncés hier, se fera à la fin du mois, après une étude précise, secteur par secteur, et un travail avec l'ensemble des États membres et évidemment des filières économiques.
Et les plus gros ne devront pas jouer solo, met en garde le président qui en appelle à la solidarité entre filières et entre pays européens pour mettre la pression sur les États-Unis avec pour objectif final revenir aux droits de douane d'avant.
Merci Pierre-Olivier. Et après les déclarations des politiques, les réactions des marchés. Altine Lazage du service économie de RFI nous a rejoint. Bonsoir Altine.
Bonsoir Christophe.
Conséquences immédiates des déclarations hier de Donald Trump, il était un peu plus de 16 heures à Washington, un peu plus de 22 heures à Paris, les marchés ont réagi de manière brutale.
Oui, en effet, les marchés mondiaux ont été ébranlés. Les bourses européennes ont terminé en forte baisse jeudi à Wall Street, les principaux indices Davis. Parmi les entreprises fuies par les investisseurs figurent celles de l'habillement, notamment celles des grands équipementiers sportifs. Leurs valeurs ont fortement chuté. Les pays les plus frappés par ces nouvelles taxes, le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, ce sont des pays clés pour le secteur de la confection. Le luxe aussi a été particulièrement touché, tout comme les actions des armateurs et des constructeurs automobiles.
Mais Altine, s'il y a des perdants, il y a aussi des gagnants, puisque le taux d'intérêt des emprunts d'État a baissé.
Les investisseurs ont délaissé les actions des entreprises et se sont rués vers les valeurs refuges comme les dettes souveraines, avec pour conséquence une baisse de leurs taux un peu partout dans le monde, car plus une obligation est recherchée par les investisseurs, plus son taux va baisser. Aurélien Lux est analyste financier chez Galilée Asset Management.
Et aujourd'hui, quand on compare avec le marché actions qui est attaqué avec vraiment des pertes très importantes aux États-Unis, pour un investisseur rationnel, prêter aux États avec un rendement qui est intéressant, il y a moins de risques également. C'est pour ça qu'on voit des flux arriver de plus en plus vers les marchés souverains. Après, les États vont pouvoir utiliser cet argent-là pour réinvestir, que ce soit dans l'armement en Europe, notamment dans la défense ou vers d'autres secteurs, hein, par exemple l'intelligence artificielle pour la France ou l'Allemagne.
Est-ce que cette baisse des taux va devenir une tendance pour que les États en bénéficient à plus long terme pour leurs emprunts? C'est difficile à prévoir.
Autre valeur refuge plébiscitée à Altine, c'est l'or.
Oui, son cours monte et passe de record en record. L'once s'est installée bien au-dessus des 3 100 $.
Pour la question de l'or, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a des niveaux records. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. On parle de guerre commerciale, on a parlé de droits de douane, et ça crée de l'incertitude pour l'investisseur qui va placer son argent sur d'autres choses. Alors, il peut le faire sur les taux souverains, mais il peut également aller sur l'or, qui est la valeur refuge par excellence. Et en plus de ça, il y a quand même des États, notamment asiatiques et chinois, qui vendent du dollar pour acheter de l'or et pour diversifier leurs réserves de change également. Donc, il y a vraiment une conjoncture très intéressante pour l'or.
Symptôme des fortes inquiétudes d'un ralentissement économique à venir au niveau mondial, le cours du pétrole plonge et la baisse du dollar s'accélère.
Merci Altine Lazage. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, était en visite aujourd'hui à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Marco Rubio qui a dénoncé ce qu'il appelle l'hystérie entourant un éventuel désengagement des États-Unis en Europe. On l'écoute.
Les États-Unis font partie de l'OTAN. Nous en sommes membres actifs au moment où je vous parle, et plus que jamais. L'hystérie et l'exagération que je vois dans les médias internationaux et dans certains médias américains sur l'OTAN sont injustifiées. Le président Trump a clairement dit qu'il soutenait l'OTAN. Nous allons y rester. Il l'a affirmé sans ambiguïté. D'ailleurs, notre premier ambassadeur confirmé par le Sénat américain est notre ambassadeur à l'OTAN et il est ici avec nous pour son premier jour, sa première heure de travail. Tout cela prouve notre engagement. Mais nous voulons une OTAN plus forte, plus viable. Et la seule façon d'y arriver, c'est que nos partenaires, les pays membres de cette alliance essentielle, aient plus de capacités. C'est une coalition non seulement de partenaires et d'alliés, mais aussi de pays riches et développés qui ont les moyens d'en faire plus.
Et Marco Rubio a appelé les pays de l'organisation à consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires.
La Hongrie claque la porte de la Cour pénale internationale.
Et alors que le président Viktor Orban accueille dans son pays le premier ministre israélien visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Benjamin Netanyahou qui a félicité son hôte pour ce qu'il qualifie de position courageuse. Florence Labrouillère.
En recevant en grande pompe le premier ministre israélien, le gouvernement de Viktor Orban bravait déjà la Cour pénale internationale. Il va encore plus loin en claquant la porte de la CPI. Ce n'est pas très surprenant, car le gouvernement hongrois avait déjà dénoncé à plusieurs reprises une institution qu'il jugeait politiquement biaisée. Et en novembre dernier, Viktor Orban avait vivement critiqué le mandat d'arrêt émis contre Netanyahou. Orban avait assuré que le Premier ministre israélien ne serait pas arrêté s'il venait en Hongrie. Mais ce qui a sans doute conduit la Hongrie à franchir un pas de plus, c'est l'attitude de Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président américain a dénigré la Cour pénale internationale et a même imposé des sanctions contre la juridiction. Or, Viktor Orban s'inspire de Donald Trump. Et pour s'attirer les bonnes grâces du président américain, Orban marche dans son sillage. La Hongrie a donc décidé de quitter la CPI. C'est aussi un geste envers le premier ministre israélien qui a présenté le premier ministre hongrois au président américain. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
De son côté, la CPI rappelle que la Hongrie reste tenue de coopérer le temps que le processus de départ soit effectif. Il y en a pour un an. Quant à l'autorité palestinienne, elle a appelé la Hongrie à arrêter Benjamin Netanyahou. L'envoyé spécial de l'ONU condamne des attaques répétées et intensifiées d'Israël en Syrie, parlant d'une déstabilisation à un moment sensible. Hier, l'armée israélienne a mené des frappes intensives sur des objectifs militaires dans le centre de la Syrie et dans la région de Damas, qui ont détruit un aéroport militaire faisant 4 morts. Une incursion a ensuite été menée dans le sud où 9 personnes qui tentaient de s'opposer à son avancée ont été tuées. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti le président syrien par intérim, Aman al-Shareh, qu'il paierait un lourd tribut si la sécurité d'Israël était menacée. Dans le même temps, Israël étend aussi ses opérations militaires à Gaza. L'État hébreu annonce saisir de larges zones du territoire palestinien dévasté. En début de semaine, un haut responsable israélien annonçait que l'armée comptait occuper 25% de l'enclave pour forcer le Hamas à rendre les otages. On retrouve à Jérusalem Sami Boukhalifa. Sami, jusqu'à présent, cette stratégie de pression militaire n'a pas fait plier le Hamas. Et en fait, les otages libérés ne l'ont été que grâce à la négociation.
Mais cette voie du dialogue est rejetée catégoriquement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En début d'année, l'accord signé entre Israël et le Hamas débouche sur une période de cessez-le-feu de 2 mois à Gaza et la libération d'une 30aine d'otages israéliens. La deuxième phase de cet accord devait débuter en mars et suivre ce même schéma comme convenu initialement jusqu'à aboutir à la fin de la guerre. Au dernier moment, Benjamin Netanyahou a changé d'avis, optant pour un plan alternatif qui ne prévoit pas l'arrêt définitif des combats. Le Hamas l'a rejeté et Israël s'est lancé dans une escalade. Première étape, fermeture des points de passage vers Gaza et donc blocage de l'entrée de l'aide humanitaire, des marchandises et du fioul qui fait fonctionner les hôpitaux. Étape 2, c'était le 18 mars, Israël viole unilatéralement la trêve et lance des bombardements meurtriers. Depuis, le bilan dépasse les 1000 morts et l'armée israélienne a tué plus de 50 000 Gazaouis depuis le début de la guerre. Étape 3, accaparer les terres et morceler la bande de Gaza en plusieurs petites enclaves séparées les unes des autres. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou plaide pour la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Le président américain propose de déplacer les Gazaouis en Égypte et en Jordanie, une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international.
Ming Aung Hlaing est arrivé à Bangkok, le chef de la junte birmane est en Thaïlande pour un sommet régional. Il doit discuter ce vendredi avec les dirigeants de 7 pays asiatiques de la réponse à apporter au séisme qui a touché vendredi son pays et la Thaïlande. Selon le dernier bilan communiqué par la junte, le tremblement de terre de magnitude 7,7 a fait plus de 3000 morts.
RFI 18h11 en temps universel en Corée du Sud, le verdict du procès en destitution du président Yoon Suk Yeol.
Qui, rappelons-le, avait tenté en décembre dernier d'instaurer la loi martiale. Un verdict donc est attendu demain. Yoon Suk Yeol continue de défendre son coup de force pour protéger, dit-il, le pays de la Corée du Nord et je cite, pour éliminer les éléments hostiles à l'État. En prévision du verdict, ce vendredi, la Cour constitutionnelle est en train véritablement de se fortifier car la municipalité de Séoul veut éviter toute violence. Elle a donc instauré un important périmètre de sécurité et déployé plusieurs milliers d'agents des forces de l'ordre. Correspondance Célio Fioretti.
14 000 policiers déployés et deux quartiers du centre-ville de Séoul classés en zone de sécurité spéciale. Un dispositif inédit pour veiller à ce qu'aucune violence n'éclate en marge du très attendu verdict de la Cour constitutionnelle. Près de 60% des forces de police du pays seront mobilisées dans la capitale au niveau d'alerte maximale habituellement réservé aux menaces terroristes. La mairie de Séoul veut à tout prix éviter un scénario semblable à celui du mois de janvier où des partisans du président Yoon avaient attaqué un tribunal et saccagé le bâtiment. La cour constitutionnelle est devenue un véritable bunker, impossible d'y approcher à moins de 100 mètres et les magasins et établissements alentour seront fermés au public. Pour ce troisième procès en destitution de l'histoire du pays, les autorités ne veulent pas répéter le scénario précédent. En 2017, lors de la destitution de la présidente Park Geun-hye, 4 personnes avaient trouvé la mort dans des mouvements de foule liés à l'agitation de ses partisans. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Katmandou est recouverte ce jeudi d'un épais brouillard toxique avec un niveau de concentration de l'air en microparticules égal à 11 fois le seuil maximal de pollution quotidienne. La capitale du Népal et ses habitants font les frais des incendies de forêt qui font rage en ce moment à travers le pays. Des feux attisés entre autres par un hiver exceptionnellement sec.
En France, c'est un procès hors norme qui s'est déroulé ce matin au tribunal de Vienne en Isère.
Un procès qui oppose la famille Grataloup au géant de la chimie Bayer Monsanto. En 2007, Sabine Grataloup donne naissance à Théo qui présente de graves malformations. Des médecins font le lien entre une exposition au glyphosate alors qu'elle était enceinte et les malformations de l'enfant. Compte rendu d'audience, Igor Strauss.
Pour Sabine, la mère de Théo, c'est presque la fin d'un cauchemar.
Contente que ça soit fini, quoi. Bon, voilà, on s'attendait hein, à de la mauvaise foi en face. Il y a eu des moments, ça a été vraiment très raide.
La mauvaise foi, selon Sabine, c'est le fait que Monsanto se dédouane de toute faute. Pour la compagnie, c'est la marque Nova Jardin, fabricante de l'herbicide Glipper, qui est responsable, bien que Monsanto ait fourni le glyphosate permettant la fabrication de ce produit, Maître Bretzner.
Nous sommes heureux d'avoir eu l'opportunité de dire un certain nombre de choses qui contribueront, espérons-le, à supprimer peut-être ce que l'on peut appeler quelques préjugés. Préjugés relatifs à la dangerosité de la substance qui est étudiée depuis 40 ans. Préjugés relatifs à Monsanto.
Maître Repold, qui défend la famille Grataloup, a une toute autre lecture des faits. Pour lui, la responsabilité de Monsanto est avérée.
Monsanto Agriculture, en août 1995, a attesté qu'elle fournissait le glyphosate pour la composition du Glipper.
C'est une attestation signée par Monsanto Agriculture qui a été ensuite absorbée, je le répète, par Monsanto et qui doit aujourd'hui répondre des défauts du glyphosate qui composait le Glipper.
C'est maintenant à la Cour d'examiner les faits. Le verdict est attendu pour le 31 juillet. Igor Strauss, Vienne, RFI.
La conférence des évêques de France va avoir un nouveau président, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il a été choisi hier par ses pairs à Lourdes. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. Et ce jeudi, Jean-Marc Aveline a estimé que l'Église devait mieux faire sur la question des violences dans l'enseignement catholique, sans plus donner de détails, alors que l'on atteint les 200 plaintes dans le dossier des violences physiques et sexuelles dans l'établissement d'enseignement catholique Notre-Dame de Bétarame. Nanni Moretti dans un état stable. Le réalisateur italien de 71 ans a fait un infarctus hier, direction l'hôpital San Camillo de Rome en soins intensifs. Mais son médecin indiquait que le pronostic restait réservé pour au moins 48 heures. On ne compte plus les excellents films de Nanni Moretti, acteur, scénariste, réalisateur et lauréat de la Palme d'Or à Cannes en 2001 pour La Chambre du Fils. La suite de RFI Soir, c'est avec vous Guillaume.
Merci beaucoup Christophe Paget.
Guillaume Ouattara.
Dans les prochaines minutes, nous reviendrons sur la relation entre Macron et Tebboune. Lundi, les deux présidents français et algériens ont échangé au téléphone, une première depuis 8 mois. Faut-il y lire un tournant enfin décisif ou bien une désescalade temporaire? Nous appellerons nos collègues du Point qui consacrent un dossier sur la question. Nous irons également en Turquie où plus de 300 manifestants sont toujours détenus après les manifestations qui ont suivi l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison, ces manifestants. Ils dénoncent surtout leurs conditions d'incarcération. Reportage à suivre dans RFI Soir. Mais pour l'heure, voici le journal des sports. Avec vous, Éric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde.
On commence avec le football, la première ligue anglaise, et ce soir le dernier match de la 30e journée.
Un derby londonien entre Chelsea et Tottenham. Si les Spurs, scotchés en bas de tableau, ne peuvent plus rêver d'Europe cette saison, c'est encore le cas des Blues, toujours dans la course. Dans cette optique, Chelsea peut compter sur l'un de ses hommes en forme, l'Argentin Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 24 ans s'est rendu indispensable ces derniers temps avec Chelsea, mais aussi en sélection. Il a ainsi marqué et délivré une passe décisive lors de la récente victoire de l'Argentine, 4-1 face au Brésil. Enzo Fernandez qui a vraiment passé un cap selon son entraîneur chez les Blues, Enzo Maresca.
Enzo, depuis son arrivée, il progresse énormément. Il comprend beaucoup mieux le jeu. Au début, il a un peu souffert, mais maintenant, il fait toujours les bonnes choses. Il est toujours bien placé. Et c'est pour cela qu'il marque et fait des passes décisives. C'est parce que la plupart du temps, il est au bon endroit. Avec l'Argentine face au Brésil, on l'a vu, il était bien placé, il était dans la surface. Donc je suis vraiment content pour lui.
So happy for Enzo.
Un succès face à Tottenham ce soir permettrait à Chelsea de chipper la 4e place du classement Manchester City, vainqueur hier de Leicester 2-0. De son côté, le leader Liverpool a conservé ses 12 points d'avance sur Arsenal en dominant Everton dans le derby de la Mersey 1-0. Les Gunners qui, dans le même temps, dominaient Fulham 2-1 grâce notamment à un but de Bukayo Saka de retour après une longue blessure, mais pas de chance pour Arsenal puisque son défenseur brésilien Gabriel s'est blessé à la cuisse et sera out jusqu'à la fin de la saison.
Allez, on sait où se dérouleront les éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde féminine.
Aux États-Unis pour la première, au Royaume-Uni 4 ans plus tard, les candidatures américaines et britanniques ont été les seules reçues dans les délais impartis pour ces deux éditions. Confirmation ce matin du président de la FIFA, Gianni Infantino. La prochaine Coupe du Monde féminine prévue en 2027 avait déjà été attribuée au Brésil. Elle se déroulera à 32 équipes avant de passer à 48 en 2031, selon le vœu formulé par la FIFA. La FIFA qui songe par ailleurs à faire disputer la Coupe du Monde masculine 2030 à 64 sélections, ceci à l'occasion du centenaire de la compétition. Pour le président de l'Union Européenne, l'UEFA, qui s'est exprimé aujourd'hui, Alexander Seferin, ce serait, je cite, une mauvaise idée. Rappelons que le mondial masculin rassemblera pour la première fois 48 nations lors de la prochaine édition, le prochain en 2026, contre 32 précédemment.
Allez, on termine avec du tennis. Gaël Monfils n'a décidément pas envie de mettre sa raquette au clou.
À l'issue du prochain Roland-Garros, il sera le dernier des 4 mousquetaires encore en activité. Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon sont à la retraite depuis plus de 2 ans et Richard Gasquet, lui, fera son dernier tour de piste à l'occasion de ses Internationaux de France 2025. Gaël Monfils, lui, se voit bien continuer encore 1 à 2 saisons.
Cette année, ça va être 39 ans, je vais faire mes 39 ans, donc j'espère finir la saison plus ou moins correctement, j'espère, sans pépin de santé. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais arriver à jouer jusqu'à 40 ans, parce que c'est juste l'année prochaine, donc je pense que j'arriverai à cet objectif. Il y a quand même des athlètes quand même qui jouent jusqu'à 40 ans, mais de pouvoir, si possible, performer à haut niveau à 40 ans avec un niveau correct, ce serait vraiment cool. Et il y a forcément des très très grands sportifs qui l'ont fait, donc de pouvoir le faire à mon niveau, à mon échelle, ce serait vraiment bien, quoi.
Gaël Monfils, loin d'être rouillé puisqu'il a remporté le tournoi d'Auckland en début d'année, puis atteint les huitièmes de finale de l'Open d'Australie et ceux du Masters 1000 de Miami tout récemment. Plutôt pas mal pour celui qui est le joueur le plus âgé du top 100 mondial, le Parisien, actuellement 42e au classement ATP. Il sera à Monte Carlo la semaine prochaine pour le premier grand rendez-vous de l'année sur Terre battue.
Merci beaucoup Eric Mamrut. RFI Soir continue à vous informer, 18h20 en temps universel. On passe tout de suite à la une. Et la une ce soir, ce sont ces relations qui sont peut-être en train de se réchauffer. Lundi dernier, le 31 mars, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont échangé pour la première fois depuis 8 mois après une longue période de gel diplomatique. Leur dernière conversation remontait à l'été 2024, peu avant que la France n'annonce son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental, déclenchant une crise ouverte avec Alger, crise qui s'est renforcée sur les questions de renvoi d'Algériens dans le pays. Bonjour Farid Aliat.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point, auteur d'un long format paru ce jour dans le magazine Macron-Tebboune, histoire d'une relation secrète. D'abord, que dit cette reprise de contact du 31 mars après 8 mois de silence sur l'état réel des relations entre Paris et Alger?
Elle dit la gravité, la profondeur de la crise franco-algérienne. Voilà des présidents qui se connaissent bien, qui s'entendent très bien aussi, qui ont installé une relation de confiance depuis la visite de Macron en Algérie en août 2022 et qui se parlaient très souvent. Mais lorsque arrive la crise à l'été 2024, ils ont cessé de se parler. Quand Macron annonce Abdelmadjid Tebboune que la France va soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Tebboune a considéré que c'est une ligne rouge qu'il fallait pas franchir, et aussi il a considéré à titre personnel comme une trahison de son ami. Voilà.
Parce que c'est un lien d'amitié qui les unissait à l'origine.
Il y a véritablement ça, tout le monde, enfin ceux qui ont approché les deux hommes, des ministres, parlent d'une réelle amitié.
Cet éclat, il disparaît aussi avec plusieurs affaires. L'affaire, évidemment, Boualem Sansal, cet écrivain, arrêté le 16 novembre dernier, condamné le 27 mars à une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Ouais. Ça, c'est une affaire. Et puis, il y a l'affaire aussi des OQTF. Ces Algériens gênants, dont Alger ne veut plus. Tout ça, ça a participé à cette crispation. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sur ces deux sujets, il y ait des évolutions entre les relations franco-algériennes?
D'abord, c'est très important de le rappeler. D'abord, la crise est née de l'épisode du Sahara occidental. Et aussitôt, en rappelant l'ambassadeur, Alger a menacé de riposter. Après, donc, les contacts sont rompus à tous les niveaux. Ensuite, il y a eu d'autres affaires, d'autres dossiers qui se sont venus s'enquister, aggraver cette crise, ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'affaire des influenceurs, ensuite la reconduction, l'exécution des OQTF, et ensuite il y a eu après l'affaire Boualem Sansal. Donc ces affaires sont venues s'ajouter aux différents sur le Sahara occidental.
Il y a une visite de Jean-Noël Barrot qui est prévue le 6 avril prochain, l'invitation de son homologue. Il y a ce coup de fil.
Alors,
est-ce qu'on est sur un réchauffement réel de ces relations ou est-ce qu'on est dans une désescalade temporaire?
Depuis la visite de Macron en Algérie, encore une fois, il s'est construit une vraie amitié, une vraie confiance, dialogue permanent entre les deux présidents qui se téléphonent, qui s'apprécient et qui se tutoient. Depuis, on remarque que chaque fois qu'il y a une crise, automatiquement, les deux présidents arrêtent de se parler.
Donc là, s'ils se reparlent...
Et dès qu'ils se reparlent, là, la tension baisse. Et là, ils se sont pas parlé depuis 8 mois. Et dès qu'ils se sont reparlé, c'est automatique. Je sais pas comment, c'est une espèce de magie, mais c'est comme ça que fonctionne.
De l'alchimie.
Voilà. Dès qu'ils se sont reparlé le 31 mars, aussitôt, la tension a baissé. tout de suite, la tension a baissé. J'ai pas dit que la crise est terminée, mais la tension a baissé et on a commencé à amorcer un processus de désescalade qui passe maintenant. La séquence, les outrances, le bras de fer, la riposte graduée, tout ça, ce qu'on a vécu pendant des semaines et des semaines, laisse place à une autre séquence plus politique et diplomatique. Et là, il va y avoir la visite de Jean-Noël Barrot la semaine prochaine à Alger, qui va être suivie par des décisions, certainement, des annonces. Et ensuite, il y aura la visite de Gérald Darmanin à Alger, mais pour le moment, on ignore la date.
Affaire à suivre et affaire à lire, surtout dans Le Point, sorti aujourd'hui en kiosque. Macron, Tebboune, histoire d'une relation secrète. Merci beaucoup, Farid Alilat, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
18h25 en temps universel, le reportage de RFI Soir nous emmène en Turquie où plus de 300 manifestants sont toujours détenus après les arrestations massives qui ont suivi l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu. Des étudiants pour la plupart qui encourent jusqu'à 3 ans de prison pour participation à des manifestations non autorisées. Leurs proches et leurs avocats dénoncent leurs conditions de détention et demandent leur libération immédiate. Reportage à Istanbul de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Daniel Valo.
Nafia Tanriverdi a les traits tirés malgré le maquillage. Depuis 10 jours et l'arrestation de son frère Baki, cette jeune comédienne n'a cessé de se battre pour lui venir en aide.
Après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, mon frère a rejoint les manifestants. Et ensuite, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. Nous avons pensé au pire des scénarios. Nous l'avons cherché partout, en allant dans les commissariats. Et finalement, nous l'avons trouvé à la fin du 2e jour. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit arrêté. Nous avons donc été très choqués.
Le jeune homme n'avait jamais participé à une manifestation de sa vie et il risque désormais de 6 mois à 3 années de prison. Sa vie a basculé comme celle de plus de 300 personnes arrêtées durant les manifestations. L'avocate Bedia Buryukebiz dénonce un abus de pouvoir et une procédure entachée d'illégalité.
Ils ont été arrêtés pour avoir refusé de se disperser à l'issue d'une manifestation non autorisée. Mais d'après la loi, ils ne devraient pas être incarcérés jusqu'à leur procès. Et pour nous, il s'agit d'arrestations illégales. La réalité, c'est que le gouvernement a peur des manifestations et ne veut pas qu'elles continuent. Il veut effrayer les étudiants et leurs parents en leur disant « Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans la rue, sinon on vous arrêtera. »
Une peur alimentée par les récits des mauvais traitements subis en détention, coups, insultes, humiliations. Une peur nourrie également par les arrestations au petit matin, au domicile des manifestants. Cette étudiante nous confie se réveiller tous les jours avec cette angoisse, voir débarquer les policiers à son domicile.
Comment la police trouve-t-elle les adresses ? Eh bien, ils doivent scanner les images filmées pendant les manifs avec la reconnaissance faciale. Et nous, pour éviter ça, eh bien, nous avons trouvé la solution. Porter des masques.
Dans ce parc d'Istanbul, à l'écart des caméras, une poignée d'étudiants discutent de la conduite à tenir en cas d'interpellation. Ils échangent des conseils et des contacts d'avocats.
Oui, nous avons tous peur, en particulier les femmes, parce que nous avons vu et entendu que la police était particulièrement dure avec les femmes. Cela me fait peur, mais cela ne m'a pas empêché de rejoindre les manifestations. Je n'aurais pas pu rester chez moi à la maison sans rien faire. Il fallait nous battre pour notre avenir et contre l'injustice.
Car il n'est pas question d'abandonner la contestation. D'ailleurs, à la libération d'Ekrem İmamoğlu s'ajoute désormais une autre revendication. La remise en liberté des 300 personnes arrêtées durant les manifestations. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul, RFI.
Il est 20h28 à Paris, 18h28 en temps universel. Vous écoutez RFI Soir. Dans un instant, c'est Afrique Soir avec Zéphirin Quadio. Et on reviendra sur l'Afrique également touchée par la forte hausse des droits de douane. A tout de suite.
Ce samedi sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la menace russe, l'Europe se prépare à basculer en économie de guerre. La commission de Bruxelles annonce 800 milliards d'euros pour réarmer le continent. Quelle est la stratégie des 28 ? Quelles sont leurs capacités de production et comment les financer ? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème de demain.
Elles se soutiennent, s'élèvent, se comprennent d'un regard. Loin des clichés de rivalité, l'amitié féminine est un lien puissant. Pourquoi ces relations sont-elles si essentielles? Comment traversent-elles le temps et les épreuves?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.